Bienvenue sur la page Bible Espoir. Nous sommes heureux de vous y accueillir et nous vous souhaitons une bonne écoute.
Enfin, on va découvrir ça ensemble. Alors, Job 28. Il y a pour l'argent une mine d'où l'on le fait sortir, et pour l'or un lieu d'où on l'extrait pour l'affiner. Le fer se tire de la poussière et la pierre se fond pour produire l'airain. L'homme fait cesser les ténèbres, il explore jusque dans les endroits les plus profonds, les pierres cachées dans l'obscurité et dans l'ombre de la mort. Il creuse un puits loin des lieux habités. Ses pieds ne lui sont plus en aide et il est suspendu, balancé loin des humains. La terre d'où l'on sort le pain est bouleversée dans ses entrailles comme par le feu. Ces pierres contiennent du saphir, et l'on y trouve de la poudre d'or. L'oiseau de proie n'en connaît pas le sentier, l'œil du vautour ne l'a point aperçu. Les plus fiers animaux ne l'ont point foulé, le lion n'y a jamais passé. L'homme porte sa main sur le roc. Il renverse les montagnes depuis la racine. Il ouvre les tranchées dans les rochers, et son œil contemple tout ce qu'il y a de précieux. Il arrête l'écoulement des eaux et il produit à la lumière ce qui est caché. Mais la sagesse, où se trouve-t-elle? Où est la demeure de l'intelligence? L'homme n'en connaît point le prix. Elle ne se trouve pas dans la terre des vivants. L'abîme dit, elle n'est point en moi. Et la mer dit, elle n'est point avec moi. Elle ne se donne pas contre de l'or pur. Elle ne s'achète pas au prix de l'argent. Elle ne se pèse pas contre l'or d'Ophir, ni contre le précieux onyx, ni contre le saphir. Elle ne peut se comparer à l'or ni au verre. Elle ne peut s'échanger dans un vase d'or fin. Le corail et le cristal ne sont rien auprès d'elle. La sagesse vaut plus que les perles. La topaze d'Éthiopie n'est point son égale, et l'or pur n'entre pas en balance avec elle. D'où vient donc la sagesse ? Où est la demeure de l'intelligence? Elle est cachée aux yeux de tout vivant. Elle est cachée aux oiseaux du ciel. Le gouffre et la mort disent « Nous en avons entendu parler. » C'est Dieu qui en sait le chemin. C'est lui qui en connaît la demeure. Car il voit jusqu'aux extrémités de la terre. Il aperçoit tout sous les cieux. Quand il régla le poids du vent, quand il fixa la mesure des eaux, quand il donna des lois à la pluie et qu'il traça la route de l'éclair et du tonnerre, alors il vit la sagesse et la manifesta. Il en posa les fondements et la mit à l'épreuve. Puis il dit à l'homme, « Voici, la crainte du Seigneur, c'est la sagesse. S'éloigner du mal, c'est l'intelligence. » Que Dieu nous bénisse. Une dernière lecture, Matthieu chapitre 13, très brève. Dans ma Bible, il y a un petit titre à ce paragraphe. Le trésor caché. Je ne sais pas si c'est la même chose pour vous. Ben, les titres ne font pas partie du texte. C'est un rajout pratique. Alors, j'ai dit, Matthieu 13, verset 44. Le royaume des cieux est encore semblable à un trésor caché dans un champ. L'homme qui l'a trouvé le cache, et dans sa joie, il va vendre tout ce qu'il a, et il achète ce champ. Le royaume des cieux est encore semblable à un marchand qui cherche de belles perles. Il a trouvé une perle de grand prix, et il est allé vendre tout ce qu'il avait, et en échange de tout ce qu'il avait et vendu, il a acheté la perle. C'est ma traduction. Voilà, Que Dieu nous bénisse à travers sa parole. Est-ce que nous pourrions pas dire, est-ce que nous pourrions pas affirmer ce matin que la Bible recèle de richesses inestimables? Dans toutes les pages de ce livre de Dieu, il y a des richesses inestimables. Dans tous les domaines, pour notre vie, pour notre connaissance, pour notre force, pour eh bien, que nous puissions être des hommes de Dieu, parce que Dieu est riche, et il est très riche. N'a-t-il pas dit à un moment donné, l'or est à moi, l'argent est à moi, les animaux des champs sont à moi, tout est à moi. Alors on ne devrait peut-être pas s'inquiéter, finalement, de nos pitoyables hésitations et de nos craintes de manquer. Nous l'avons vu il y a un vendredi soir, nous avions parlé dans cette affirmation du livre des Hébreux, où Dieu dit « Mais je ne t'abandonnerai pas, je ne te délaisserai pas ». Et il est question justement des problèmes peut-être parfois économiques et financiers que nous pouvons avoir. Mais écoutez, celui qui nous a donné la vie va faire en sorte que cette vie soit entretenue, puisqu'il possède tout. Alors nous avons vu Job avec cette descente dans les galeries d'une mine. C'est toujours assez impressionnant. Hein. Je ne sais pas si vous avez visité des cavernes ou des caves ou toutes sortes de choses. C'est un lieu qui quand même, c'est pas notre élément naturel, hein. On n'aime pas forcément trop ça, mais on nous montre des belles choses. Les trésors de la spéologie, excusez-moi, et on découvre qu'il y a des trésors sous la terre, sous nos pieds il y a des trésors. Alors, il y a dans les mines, on en fait l'extraction de perles, de diamants, de perles précieuses, de pierres précieuses, d'or, d'argent. On nous a cité quelques noms. Vous avez remarqué que dans le livre de la Genèse, il est question au moment de la création, eh bien d'or, d'orphyre, et toutes sortes de richesses minéralogiques. Quand vous regardez à la fin de la Bible, vous avez la même chose sur la Nouvelle Jérusalem. Je ne reprends pas les textes, mais vous les retrouverez. Parce que Dieu est le Créateur de toutes les choses qui ont de la valeur, des choses précieuses, et ce sont que des symboles. Parce que une perle, un diamant, eh bien, ce sont les symboles de la pureté. On les présente comme ça, d'ailleurs. C'est ce qui fait leur valeur. C'est le symbole de la perfection. C'est le symbole également de la dureté, un diamant. On s'en sert en industrie pour, eh bien, là, certains travaux qu'on ne pourrait pas faire avec d'autres matériaux. C'est le lustre d'une perle, c'est le lustre, ça veut dire c'est l'éclat lumineux, ça scintille. Un scintillement que nous trouvons dans nulle part ailleurs et dans d'autres, eh bien là, matériaux ou autres créations de Dieu, parce qu'il y a quelque chose de tout à fait spécifique. On parle également d'Orient, une perle. Quand on dit l'Orient d'une perle, eh bien c'est son aspect irisé. Enfin, beaucoup d'autres termes techniques comme cela. On parlera de joyaux de lumière et de prismes de réfraction, j'en passe, parce qu'on a déjà vu ça ensemble. Et tout cela revient sous un mot, c'est le feu de la pierre, c'est le feu du diamant, c'est le feu de la perle. Un petit rappel, le plus gros diamant au monde s'appelle le Cullinan. Il pèse, enfin, il a cette valeur de 3106 carats. Imaginez-vous. Vous avez ça, tranquille pour la vie. Mais attention, il faut mieux le mettre quand même dans un lieu sûr. Parce qu'il est quand même couru. Le régent, c'est aussi un diamant très réputé. J'ai eu l'occasion de le voir, imaginez-vous. Mais vous pouvez le voir aussi, si vous voulez. Vous allez au musée du Louvre, dans la galerie des couronnes et des joyaux, et vous l'avez devant les yeux. Ah, je suis resté un petit peu ébahi parce que, et puis, c'est quelque chose d'assez étonnant et extraordinaire. Il est en exposition, mais il y a une vitre quand même assez épaisse. Ce qui est du monde, hein. Alors, tout ça, ce sont des trésors. Les hommes les estiment des trésors. Enfin, ils les considèrent comme des trésors. Et puis un jour, je vous avais parlé de la perle d'Allah, qui était trouvée aux Philippines en 1936. Alors là, c'était vraiment quelque chose, hein. Parce qu'elle pesait, je vais vous donner, 6 kg 370 grammes. Alors vous avez cette perle autour du cou, vous penchez en avant, hein. Ouais. Là, c'est quelque chose. Bon, on passe sur ces choses. On va aller au vif du sujet maintenant. Posséder la perle de grand prix. Parce que c'est Jésus qui nous donne cette parabole. On l'a lu dans l'évangile de Matthieu. Avoir, détenir la perle de grand prix. Eh bien, moi, je voudrais vous dire que c'est le vrai trésor qui rend heureux. Je ne sais pas si je possédais ces perles, ou ces diamants, ou ces pierres précieuses, cet or et cet argent dont nous avons évoqué en préambule dans notre message, je ne sais pas si ça rend vraiment heureux. On peut être fier, oui, de posséder, d'avoir cette fortune chez soi ou dans son coffre, et de pouvoir avoir la réputation de ce que l'on dit, voilà cet homme, eh bien, il a ceci, il a cela. Il possède son poids en or. Plus on est gros, plus ça compte. Alors, je ne sais pas si ça rend heureux, parce que beaucoup d'hommes, beaucoup de gens ont cela, et quelque part, excusez-moi, je vais faire un vilain jeu de mots, mais ils sont malheureux comme la pierre. Parce que ce n'est pas ça la réalité. Et pourtant, Dieu a donné ces joyaux, ces trésors, ces choses que l'on déclare inestimables. Ah oui, c'est quelque chose d'assez étonnant. Hein. Il y a des villes qui sont spécialisées. Anvers, Amsterdam, j'ai vécu à Amsterdam, et dans le quartier des diamantaires, c'est assez particulier. C'est un climat particulier, je peux vous dire. Parce que c'est là où on fait la taille. C'est là où il y a des négociations secrètes. Et vous avez tout un quartier à Amsterdam. C'est assez étonnant. Hein. Un quartier de la ville qui s'est spécialisé dans tout cela. Et quand vous voyez dans les vitrines, il y a des petites vitrines, derrière certainement les ateliers super secrets, on n'y rentre pas comme ça, je peux vous le dire. Vous avez une petite fenêtre sur la rue, et il y a un diamant, ils n'en mettent pas 36, hein. Un seul. Ils l'exposent comme ça. Ça va, c'est bien. Un, ça suffit. Et tous les autres sont derrière. C'est assez étonnant. Hein. Alors, pour nous dire que les hommes courent après des fortunes. Ils courent après des choses qui leur semblent, avec les noms que nous avons utilisés, après des perles, après des diamants, après de l'or, après de l'argent. Ils se disent, ce sont des joyaux. Et quand j'aurai ceci, quand j'aurai cela, eh bien, véritablement, on me considérera. Oui, on vous considérera par les voleurs, parce qu'ils vont vous courir après. On vous considérera, vous allez peut-être avoir une aura ou je ne sais quelle réputation. Mais est-ce que c'est ça ce qui rend les gens heureux? Et pourtant le monde est tourné, il est à la course, il est en frénésie après ces choses. Oui, la perle de grand prix dont Jésus nous dit, en l'illustrant avec ce marchand, qui va passer peut-être une grande partie de son existence à fouiller, à faire des recherches dans toutes sortes d'endroits. Et à un moment donné, eh bien, cet homme, selon la parabole, eh bien, va se réjouir, il trouvera la perle. Alors, cette perle, elle est toute enfouie, elle est toute gainée de calcaire, de toutes sortes de choses. C'est pas évident de trouver une perle, hein. Savoir que c'est une perle, vous pouvez l'avoir dans les mains et finalement pas vous apercevoir que c'est une perle. Et dans l'histoire que Jésus nous raconte, eh bien, cet homme, à ce moment-là, a trouvé. Et il va acheter, il va d'abord vendre tout ce qu'il a. Il se dit maintenant, je fais le sacrifice de tout ce que j'ai, ma maison, mes biens, ma fortune, parce que je crois que maintenant, ce que je viens de voir, ce que je viens de découvrir, alors, on appelle ça un inventeur, celui qui cherche. Hein. Curieusement, c'est un inventeur dans les termes juridiques. Alors, il vient justement de découvrir, et là, il referme le trou. Il va même peut-être mettre des pierres au-dessus. Il va faire l'acquisition du terrain, l'acquisition du champ, et ensuite il reviendra avec l'acte de propriété, et ensuite il ressortira son trésor. Vous savez, c'est l'image de la vie spirituelle. Est-ce que nous n'avons pas tous, j'espère en tous les cas, tout abandonné lorsque nous avons trouvé Jésus? Il y a eu des sacrifices au moment de notre conversion. Hey. Bon, on n'avait peut-être pas grand-chose, hein. Moi j'avais pas grand-chose, mais ça n'a pas d'importance. Mais il y avait le sacrifice peut-être de ma tenue vestimentaire, de mes disques à l'époque, de ma vie, des sacrifices sentimentaux, toutes sortes de choses, parce que j'avais trouvé la perle de grand prix. Et ça, ça valait plus que tout le reste. C'est ça la conversion. C'est pas de dire « Seigneur, je te veux, mais je garde tout ». Il y a naturellement cette attitude de cet homme qui nous donne l'exemple eh bien, de ce qu'il fait, et de ce qu'il fait, eh bien, nous parle. Parce qu'il savait, et là il a découvert qu'il était heureux cet homme, la perle de grand prix. Permettez-moi d'ajouter que Jésus est celui que l'on recherche et que l'on finit toujours par trouver pour celui qui veut trouver. Demandez, l'on vous donnera, cherchez, et vous trouverez. Frappez la terre! Et là, à ce moment-là, les portes de la terre s'ouvriront et vous trouverez le trésor. C'est une anticipation, bien sûr, de la pensée. Je crois que tous les hommes autour de nous, dans sa grâce, parce que Dieu a mis véritablement la recherche de ce trésor, eh bien, ils trouveront. Et moi, quand je prêche, quand je fais de l'évangélisation, ou dans les actions qui doivent être mises, il faut que nous partions, frères et sœurs, avec le sentiment qu'il y a des frères et des sœurs, il y a des hommes qui ne sont pas encore frères et sœurs, je ne les connais ni de nom ni de visage, mais qui vont venir, parce qu'ils sont déjà cherchés par Dieu, et nous, nous sommes des gens qui devons fouiller, qui devons, là, creuser le sol par l'évangile, et... Eh bien, ces gens, ils trouveront. Je me laisserai trouver par vous, nous dit Jésus. Et quand on a découvert ce trésor, on renonce à tout. C'est merveilleux. On renonce à tout. On renonce d'abord à soi-même. Le sacrifice de tout ce que l'on croit être de valeur et qui devienne finalement secondaire, qui devienne, bien, quelque part même inutile. Eh oui, inutile. Paul en parle si bien, lorsqu'un bon jour, il a découvert la perle de grand prix. Et maintenant, nous allons passer au texte de la Bible. Si vous permettez, dans Philippiens, on va voir la force des mots dans cette découverte de ce trésor. Ce trésor inestimable. Écoutons parler Paul de son expérience de découverte de la foi au chapitre 3 et au verset 4. Il est dit ceci, et pourtant il avait de quoi se glorifier. Il dira, « Moi, cependant, j'aurai sujet de mettre ma confiance en la vie ou en la chair. Si quelqu'un croit pouvoir se confier en la vie, en la chair, je le puis bien davantage. Moi, circoncis le huitième jour de la race d'Israël, de la tribu de Benjamin, hébreu né d'hébreu, quant à la loi, pharisien, quant aux zèles persécuteurs de l'Église, irréprochable à l'égard de la justice de la loi. » Mais il ajoute ceci, mais ces choses étaient pour moi des gains. Elles étaient avant des gains. Je les ai regardées comme une perte à cause de Jésus-Christ. Jésus-Christ, pour Paul, c'est la perle de grand prix. Je les ai regardées comme une perte à cause de Christ. Et même, je regarde toutes choses comme une perte à cause de l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ. L'excellence, c'est la perle. Et vous y trouvez la pureté en Christ, vous y trouvez la sainteté, vous y trouvez la lumière, vous y trouvez le feu, enfin tout ce que l'on peut trouver dans les perles et encore, l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ, mon Seigneur, pour lequel j'ai renoncé à tout, et je regarde ces choses comme de la boue. Voilà, de la boue. Et ça, c'est la véritable conversion. Quand il y a un avant et un après. Alors si vous me le permettez, nous allons partir maintenant à la recherche de ce trésor caché. Et on va suivre la piste au trésor. On a tous joué à ça. Dans les colons, on en a fait, je peux vous dire. On a couru après les enfants. Mais c'était très intéressant. La piste au trésor qui nous conduit à la perle de grand prix, celle qui vaut tout l'or du monde. Livre des Proverbes, au chapitre 2. Et au verset premier, on va découvrir que la première perle, elle éclate dans nos cœurs et devant nos yeux, dans ce scintillement extraordinaire. « Mon fils, si tu reçois mes paroles Et si tu gardes avec moi mes préceptes, si tu rends ton oreille attentive à la sagesse, et si tu inclines ton cœur à l'intelligence, oui, si tu appelles la sagesse. Et si tu élèves ta voix vers l'intelligence, si tu la cherches comme l'argent, et si tu la poursuis comme un trésor, alors tu comprendras la crainte de l'Éternel et tu trouveras la connaissance de Dieu. Nous avons compris que nous sommes appelés à faire attention d'abord, que nous sommes appelés à incliner nos cœurs, que nous sommes ensuite appelés, que nous devons élever notre voix, c'est-à-dire la prière, que nous devons chercher, et quand on a cherché et qu'on n'a pas encore trouvé, il faut poursuivre pour celui-là. Et le résultat, c'est que tu comprendras. Tu comprendras. Il y a quelque chose ici et là qui va s'illuminer. Est-ce que ce n'est pas le chemin par lequel nous sommes passés? Nous pensions avoir une sagesse auparavant. Sagesse intellectuelle, sagesse académique, une sagesse philosophique, une sagesse de la vie. Mais quand nous avons découvert l'Évangile, nous nous sommes aperçus qu'il y avait une autre dimension. Nos yeux se sont ouverts. Si tu cherches la sagesse, si tu l'appelles, si véritablement tu la désires, mais Dieu va te la donner. Et ça fait écho à ce que Jacques nous dit. Mais si quelqu'un manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu, elle lui sera donnée simplement et sans reproche. Mais le plus terrible, c'est que ceux qui manquent de sagesse ne savent pas qu'ils manquent de sagesse, ils croient l'avoir. C'est ça le drame. Et tu comprendras. Passons maintenant dans d'autres couloirs de la mine et descendons un peu plus profond. Dans le psaume, on va découvrir encore un autre aspect de cette perle de grand prix qui nous attend. Psaume 49, verset 16. C'est un avertissement en quelque sorte, de ne pas nous tromper de couloir, de ne pas nous tromper de direction, parce que vous savez, à la recherche de la perle de grand prix, c'est un labyrinthe, hein, un labyrinthe sous la terre. Et voilà ce qu'il nous est dit. « Mais Dieu sauvera mon âme du séjour des morts, car il me prendra sous sa protection. » Et il ajoute ceci. « Ne sois pas dans la crainte parce qu'un homme s'enrichit. » Il y a richesse et richesse. Il y a valeur et valeur. « Parce que ses trésors ou les trésors de sa maison se multiplient. » Et il donne le résultat. « Car ne t'inquiète pas, ne t'affole pas, ne va pas te rendre malheureux, car... il n'emporte rien en mourant, ses trésors ne descendent point après lui. Il a beau s'estimer heureux, il aura beau se louer de jouissances, se donner des jouissances qu'il se donnera lui-même, tout ça, ça ne servira à rien. Ouais. Ce passage nous rappelle tout simplement qu'il s'agit pour nous de faire de bons choix. De bons choix. Et de ne pas convoiter ce qui n'a pas de valeur réelle. Hier soir, nous avons eu une réunion de jeunesse, brièvement, j'ai donné la notion de ce que pouvait être, de ce qu'est la convoitise. Ouais, la convoitise. S'il n'y avait pas eu de péché, il n'y aurait pas de convoitise. Mais le péché existe et les hommes convoitent, d'une manière ou d'une autre. Et je crois que nous sommes dans un monde où nous sommes environnés de tellement de choses, surtout dans notre pays. Vous savez que la France n'est pas le pays le plus pauvre au monde, hein ? Il ne semble pas, même s'il y a des pauvres. Mais toujours est-il qu'il y a tant de choses autour de nous. Et quand on n'a pas, on a juste le droit d'une chose, c'est de les regarder seulement, de loin, pas toucher. Et encore, il y a beaucoup de choses qui sont cachées, mais ça ne nous intéresse pas. Alors, je crois que cela, c'est une interpellation, et Dieu nous dit, mais fais attention ! Et fais attention, toi, mon frère et ma sœur, qui quelquefois convoitent des choses en disant « Mais si j'avais ceci, si j'avais cela, en y mettant la bénédiction de Dieu, parce qu'on couvre tout avec la bénédiction de Dieu, c'est trop facile, eh bien, ça m'apporterait ceci et cela. » Vous savez, notre vrai trésor, c'est d'avoir Jésus dans notre vie et de vivre en le suivant pas à pas. Ça nous suffit. Je ne sais pas si vous êtes d'accord, mais moi, je crois que c'est ça, la véritable vie chrétienne et le sens à donner à notre vie spirituelle. Alors la Bible nous prévient, nous dit, mais attention, ne regarde pas, ne convoie pas, tu vois, il a ceci, il a cela, mais t'en désintéresse, parce que moi je peux te donner quelque chose qui te rendra certainement plus heureux. Plus heureux que tu ne peux l'imaginer. Un chrétien est avant tout un homme réaliste. Il sait pourquoi il est chrétien, il sait qui il suit, il sait en qui il a mis sa foi. Est-ce que ça ne doit pas nous suffire? Le reste nous sera donné. Alors on va encore aller un petit peu plus en profondeur et on va descendre dans le livre du prophète Ésaïe au chapitre 45. Excusez-moi. Oui, c'est ça. Verset 45. J'avais tellement de textes repérables et repérés. Versets 2 à 3. On va lire cela. C'est Dieu qui parle à un païen, mais dont il va se faire son serviteur, il s'appelle Cyrus, qu'il tient par la main pour terrasser les nations devant lui et pour relâcher la ceinture des rois, pour lui ouvrir les portes afin qu'elles ne soient plus fermées. Je marcherai devant toi, ça nous concerne. J'aplanirai les chemins monteux. Je romprai les portes des reins et je briserai les verrous de fer. Je te donnerai des trésors cachés, des richesses enfouies, afin que tu saches que je suis l'Éternel qui t'appelle par ton nom, le Dieu d'Israël. Hey. Écoutez bien, je te donnerai des trésors cachés, des richesses enfouies. Et quand nous avons ces promesses, parce qu'il s'agit de promesses, là, quand il s'agit de promesses où Dieu nous fait la grâce de marcher devant nous, quand il fait la grâce d'aplanir nos chemins monteux, quand il nous assure qu'il romprait les portes et les verrous de fer ou d'airain, alors à ce moment-là, Dieu nous ouvrira. Il nous fera rentrer, il nous fera pénétrer dans des espaces où il y a des trésors cachés. Et pour savoir une chose, pour que nous connaissions une chose, que c'est lui qui est Dieu et qu'il est le seul Dieu, qu'il est l'Éternel, qu'il est vivant, qu'il est puissant et qu'il prend soin de ses enfants. Les véritables trésors nous viennent de la main de Dieu. Puisque Dieu dit « Je te donnerai. Je te ferai. Tu sauras que. » Ça vient de la main de Dieu. N'allons pas chercher ailleurs. Il y a des gens qui pensent que Dieu est faible, que Dieu est insuffisant, que Dieu est incapable, que Dieu est ceci et cela. Et c'est curieux parce que Dieu quelquefois se tait. Ah, vous pensez que je suis incapable? Vous pensez que je suis impuissant? Vous pensez que je suis sourd maintenant parce que j'ai vieilli? Que je suis fatigué? Attendez la suite. Parce qu'on ne se moque pas de Dieu. Dieu garde souvent le silence, mais quand il se lève, il dit des choses. Et non seulement il les dit, mais il les fait. Et il faut savoir que les trésors nous viennent de la main du Seigneur, de la main de Dieu. Et ça, parce qu'il se déclare « Je suis l'Éternel, le Dieu d'Israël, parce que je suis le suprême et céleste donateur ». Il est le céleste donateur, c'est lui qui donne. Et moi, je veux recevoir de la part de Dieu. Parce que c'est là où il y a la bénédiction qui enrichit et qui n'est suivie d'aucun chagrin, ce que nous dit un autre passage de la Bible. Allons encore plus loin. Ne soyons pas effrayés, parce que nous ne sommes pas dans l'obscurité, nous sommes dans la lumière en ouvrant la parole. Hein. Même si dans une mine, c'est sombre. Deutéronome, chapitre 28. Verset 11, puisqu'on a parlé de Dieu donateur, de Dieu qui affirme ce qu'il est, eh bien voilà encore une belle promesse pour aller à la recherche du trésor. L'Éternel te comblera de bien en multipliant le fruit de tes entrailles, le fruit de tes troupeaux et le fruit de ton sol, dans le pays que l'Éternel a juré à tes pères de te donner. Moi, j'aime bien la notion d'héritage dans l'œuvre de Dieu, dans le royaume de Dieu. Il y a toujours un héritage. Il y a des mauvais héritages, mais il y a des bons héritages. Et quand on fait confiance à Dieu, il y a toujours de bons héritages. L'Éternel t'ouvrira son bon trésor. Ouais. Ce n'est pas le mauvais trésor, c'est le bon trésor. Et qu'il l'explique, c'est le ciel. Mais ça, c'est un ciel matériel, parce qu'il y a le ciel aussi qui viendra dans une vision spirituelle. Mais c'est le ciel, parce que du ciel, pour t'envoyer à ton pays la pluie en son temps et pour bénir tout le travail de tes mains, tu prêteras beaucoup à donation et tu n'emprunteras point. C'est ce qui a fait peut-être la réputation des Juifs pendant des siècles et des siècles. Hein. L'Éternel fera de toi la tête et non la queue. Tu seras toujours en haut et tu ne seras jamais en bas. Lorsque tu obéiras au commandement de l'Éternel ton Dieu, et que je te prescris aujourd'hui, lorsque tu les observeras et les mettras en pratique, et que tu ne te détourneras ni à droite ni à gauche, de tous les commandements que je vous donne aujourd'hui pour aller avec d'autres dieux et pour les servir. Vous avez remarqué ce qu'il nous a dit ? Dieu t'ouvrira son bon trésor, le ciel, pour que du ciel la pluie tombe et que ça enrichisse ta terre. Mais à une condition, vous l'avez remarqué, si nous obéissons, si nous obéissons pas, terminé. Il y a une chose que Dieu nous demande. Il y a une chose que Dieu me demande, c'est d'obéir. Non pas d'obéir aux hommes, mais d'obéir à celui qui m'a appelé dans le ministère. Et ça, c'est important pour moi. Parce que je perds ma vocation si j'oublie pas, si j'obéis pas, pardon. C'est normal. Moi, si je n'oublie pas mon patron, enfin, patron employeur, il va me dire, monsieur, ben, vous partez, hein, c'est tout. C'est normal. Et quand on est employé, quand on est engagé dans l'œuvre de Dieu, celui auquel nous devons nous soumettre, c'est le Seigneur, autrement je suis licencié. C'est logique, hein. C'est normal. Tout le monde le comprend. Et nous avons besoin de comprendre que Dieu a dit, je t'ouvrirai le ciel, il y a un héritage, il y a ceci et cela, mais dans la mesure où tu m'obéis, et que tu observes les commandements que je te prescris, et que tu n'ailles ni à droite ni à gauche. Ah oui, c'est ce qui fait la particularité de ceux qui sont appelés au ministère. Quelquefois, eh bien, ils ne regardent qu'une chose, c'est de faire la volonté de Dieu, et uniquement la volonté de Dieu. C'est vrai que ça ne plaît pas à tout le monde, mais moi je sais que c'est ma responsabilité devant le Seigneur. Et je n'ai pas envie de perdre mon salut. Parce que Dieu parle à ses serviteurs, il nous donne des choses, et nous avons besoin, et il nous faut absolument, impérativement, eh bien, faire ce qu'il nous demande. Parce que Dieu nous fournit les éléments. Mais une chose dont nous devons être certains, que s'il nous donne la conduite à tenir, mais il bénira ce travail. Il donnera sa grâce. Il donnera l'héritage. Donc, ce texte de Deutéronome nous dit simplement, en observation, suivez le guide. Et alors à ce moment-là, vous serez riche de la vraie richesse. Tout simplement. Celle qui vient de Dieu, celle qui descend sur la terre et qui est un enrichissement. Et la condition, c'est tout simplement l'obéissance. Vous vous souvenez que l'apôtre Paul a dit ces paroles. Malheur à moi si je n'annonce pas l'évangile. Malheur à moi si je n'annonce pas l'évangile. Et malheur à celui qui ne fait pas ce que Dieu lui demande de faire. C'est sa responsabilité, c'est aussi sa charge. Et c'est parfois aussi sa douleur. Je tiens à le dire. On va remonter un petit peu dans notre Bible, ça ne va pas être très très long. Mais on va aller maintenant visiter encore quelques textes. Je vous propose dans Matthieu, chapitre 2. Prenons dans Matthieu, si vous voulez bien. Versets 10 et 11. Alors, on est à proximité d'un événement. Ça nous est rappelé ce matin à l'occasion de cette exploration à la recherche du trésor. Quand ils aperçurent l'étoile, verset 10, ils furent saisis d'une très grande joie. Ils entrèrent dans la maison, virent le petit enfant avec Marie, sa mère, se prosternèrent et l'adorèrent, et ils ouvrirent ensuite leur trésor et lui offrirent en présent de l'or, de l'encens et de l'amir. Ils se prosternèrent et ils l'adorèrent et ils ouvrirent ensuite leur trésor. Les hommes qui offrent un trésor à Dieu. On peut dire ça comme ça. Trésor humain pour le trésor divin. Quelque chose d'important lorsque... Et vous savez que Dieu agrée nos trésors, il agrée nos offrandes, qu'elles soient en espèces sonnantes et trébuchantes. Mais il agrée aussi nos offrandes lorsque nous louons le Seigneur avec un cœur pur, dans l'amour fraternel, dans la communion du corps de Christ. Nous offrons notre or, notre encens et notre myrrhe. L'or est le symbole de la royauté, l'encens est le symbole de la divinité, puisque dans le temple, on faisait exhaler de l'encens. Et puis la myrrhe, c'est toujours le sacrifice, le rappel du sacrifice que Jésus a donné sa vie pour nous. Vous avez finalement les éléments du repas de Sainte-Cène à travers cela, si vous voulez le voir de cette manière. Et puis, un dernier texte dans Luc, un dernier texte à rechercher, il y en aura d'autres mais qui seront cités, tout simplement. Dans Luc chapitre 12, verset 33, ça c'est l'interpellation, ça revient un petit peu à ce que ce marchand, lorsqu'il a fouillé la terre, il découvre une perle de grand prix, il dit « je vends tout, j'achète le champ, et en ayant acheté le champ, j'ai la perle avec ». Hey, regardez, écoutez plutôt. Vendez ce que vous possédez et donnez-le en aumône. Faites-vous des bourses qui ne sucent point un trésor. Vous avez remarqué l'adjectif ? Un trésor inépuisable. C'est pas un trésor inaltérable là. C'est-à-dire que c'est un trésor qui ne trouvera pas de fin. On peut puiser dedans, mais il se renouvelle. Et ça, c'est formidable. J'ai fait la nuance, hein, parce que quelquefois, on lit les textes et puis on se dit, bon, d'accord, on a compris ce que ça voulait dire. Non, c'est un trésor inépuisable dans les cieux où le voleur n'approche point et où la teigne ne détruit point, car là où est votre cœur, là sera votre... Non, là où est votre trésor, là sera votre cœur. Hey. Alors, on est descendu dans une mine. Et puis on s'aperçoit que Dieu nous renvoie en disant « Hey, ta bonne mine, c'est pas là-bas qu'il fallait regarder. Parce que les trésors de la terre, l'or, l'argent, le saphir, l'onyx, etc., etc., c'est pas là qu'il faut regarder, c'est pas vers la terre. Regarde donc du côté de ton cœur et tu vas voir où tu en es situé. Regarde du côté de ton cœur et tu vas trouver à ce moment-là. Tu vas voir le trésor, la nature de ce trésor. » Parce que le trésor du ciel commence et est déjà caché au fond des cœurs des hommes. Il y a des cœurs honnêtes, il y a des cœurs bons, il y a des cœurs justes. C'est ce que Jésus nous dit dans la parabole du semeur. Quatrième terrain, parce qu'on parle encore de terre, où on jette la semence, elle germe ou elle ne germe pas. Et vous savez pourquoi elle ne germe pas ? Parce que finalement, il y a des épines, parce qu'il y a des ronces, parce qu'il y a des pierres, parce qu'il n'y a pas de sous-sol profond. C'est ça le problème. Mais Jésus nous parle de cœur honnête, bon et juste. Et pourquoi Jésus nous dit-il ça ? Parce que c'est de ton cœur que sera ton trésor. On verra la nature de ton trésor. C'est que Jésus nous dit, et toute la Bible se relaie derrière Jésus, proclame avec les affirmations de Jésus que le cœur de l'homme peut dissimuler de mauvais trésors. Il peut y avoir un mauvais trésor et un trésor qui ne vaut rien. Nous y sommes attachés à ce trésor en cœur, il n'a aucune valeur. C'est finalement des matériaux sans valeur qui le composent. Il y a beaucoup de textes qui nous parlent de mauvais trésors. Dans la Bible. Beaucoup, beaucoup. Dans Proverbes, chapitre 10, verset 2, je cite tout simplement, il est parlé du trésor de la méchanceté. Les trésors de la méchanceté ne profitent pas, mais la justice délivre de la mort. Oui, trésor de méchanceté. C'est terrible ça. Et le méchant se dit, mais moi, j'ai quelque chose pour moi, j'ai quelque chose à moi. Et il fait de sa méchanceté, eh bien, son trésor. Mais vous avez remarqué, il nous est dit que ça ne profite pas. Et que, quelque part, il n'y a qu'une chose qui peut nous délivrer de la méchanceté, c'est d'être juste et vrai. Et à ce moment-là, eh bien, je serai délivré de la mort. Parce que la méchanceté, elle vient du malin, elle vient de celui qui veut le mal, et elle m'entraîne à la mort. Et je rejoindrai le malin. Ou encore, dans Proverbes chapitre 21, verset 6, il est parlé des trésors acquis, par une langue mensongère, sont une vanité fugitive et l'avant-coureur de la mort. Ça fait deux fois que le mot mort est associé à ces trésors-là, ces trésors mauvais. Deux fois, c'est le texte qui nous le dit, deux fois que le mot mort a l'aboutissement, finalement, et bien comme conclusion. Les trésors acquis par une langue mensongère. Ça nous fait penser, bien sûr, à tous ceux qui veulent s'enrichir rapidement, à tous ceux qui veulent hériter de quelque chose. Il nous est dit qu'un un héritage acquis précipitamment, finalement, eh bien, ne profitera jamais. Devient même une malédiction, quelque part. Vanité fugitive et l'avant-coureur de l'amour, de la mort. On a parlé de ces trésors de méchanceté, ces trésors de mensonges. Et maintenant, le trésor de l'injustice, c'est dans Michée, chapitre 6, verset 10. C'est une question. Y a-t-il encore dans la maison du méchant des trésors iniques? Objet de malédiction. Le mot mort est supposé dans le mot malédiction. Trois fois. Donc, la méchanceté, le mensonge, l'injustice. La question est posée par la parole de Dieu. Y a-t-il dans la maison du méchant des trésors d'iniquité? Et quand vous regarderez le texte, parce que je l'ai vérifié quand même, hein, je ne dis pas les choses comme ça, vous verrez qu'il est question des balances fausses. C'est l'image de la justice, même sur les frontons de nos tribunaux, s'ils sont encore en activité. Toujours est-il que vous avez cette croix et vous avez souvent une balance. Et si les hommes du monde ont encore un sens de la justice, à combien plus forte raison les chrétiens doivent avoir un sens de la justice et de la vérité, de l'équité. C'est le moindre que nous puissions attendre. Trésors d'iniquité qui sont des objets de malédiction, trésors qui aboutissent à la mort. Je l'ai déjà raconté, je le raconte encore. Il y avait un explorateur qui partait dans les régions profondes de l'Inde, sur les contreforts peut-être de l'Himalaya, et il faisait le voyage. Il était chargé. Était-il seul ou avait-il une équipe? Et un jour, il s'est arrêté dans un village pauvre, un village déshérité, mais il a frappé à la maison d'une femme, d'une pauvre femme, et elle l'a hébergé chez elle, pour passer la nuit ou passer deux nuits, je ne sais pas, peu importe. Et puis elle lui a dit, voilà, monsieur l'étranger, j'ai un trésor à vous montrer. Ouais, j'ai quelque chose que les autres n'ont pas. Je détiens dans ma maison quelque chose que les autres n'oseront même pas avoir, ils ne voudraient pas avoir, mais moi je l'ai, c'est mon trésor. Alors elle est sortie sur le pas de la porte. Elle lui dit, regardez ce trou dans le mur. Et c'est vrai qu'il y avait un trou dans le mur de sa maison. Et elle a tapoté un petit peu sur le bord, sur les pierres de ce trou. Et là, à ce moment-là, est sortie la tête d'un cobra. Bah, on peut avoir les animaux qu'on veut. Hein. Si vous voulez avoir un serpent minute ou des choses comme ça, ça va vite avec le minute. Hein. Bah, vous pouvez avoir ce que vous voulez. Et elle a tapoté comme ça. Et là, naturellement, l'aventurier, ou plutôt le voyageur, s'est reculé, parce que quand on reconnaît à peu près ce que c'est que ce genre d'animal. Hein. Et il s'est tenu à distance, et cette femme avait réussi à l'apprivoiser, c'était son trésor, et elle lui donnait à manger dans la main, comme ça. Vous voyez qu'il ne m'attrape pas un doigt. Hein. Elle lui donnait à manger, comme ça. Et il avait l'air d'être très docile, très familier. C'était son trésor. Et puis cet homme, après, est parti. Et puis quelques semaines, quelques mois après, il est repassé par le même village. Et là, il a frappé à la porte de cette femme. Et la porte était fermée. Alors il s'est questionné, il a demandé aux voisins ce qui s'était passé. Et les voisins lui ont dit, mais elle est morte. Elle est morte. Mais comment est-elle morte? Je l'ai vue il y a quelques semaines, elle était en bonne santé, je ne vois pas pourquoi elle est morte. Et là, ils lui ont dit, après votre départ, elle a fait et elle a refait ce qu'elle faisait avant, et à ce moment-là, on ne sait pas ce qui s'est passé. Elle s'est fait mordre la main, et en l'espace de quelques heures, elle a disparu. Il y a des trésors qu'on ne peut pas garder dans son cœur, les trésors de méchanceté, les trésors d'injustice, les trésors de ce que vous voudrez appeler, d'une manière ou d'une autre, et qui a une connotation de péché. Tôt ou tard, on est mordu, et vous avez vu avec moi, dans le texte qui nous est dit, eh bien, ça mène à la mort. La méchanceté, le mensonge, l'injustice, ce sont des cobras. Et chez un enfant de Dieu, ce n'est pas possible, parce qu'autrement, nous sommes voués à disparaître. Et je finis, les trésors de Dieu, ou le trésor de Dieu, il faut bien savoir et garder dans un écrin fragile, car Dieu fait grâce aux humbles, mais il résiste aux orgueilleux. Soyons humbles devant le Seigneur. Et une chose qui est certaine, soyons celui qui a dit « Je suis humble et doux de cœur ». Eh oui. L'humilité, c'est la meilleure garantie de conserver les richesses des cieux. Dans 2 Corinthiens chapitre 4, verset 7, soyons-en conscients, Paul dira « Nous portons ce trésor dans des vases de cristal, dans des vases d'albâtre, dans des vases de terre, ouais, de l'argile, dans des vases d'argile, afin que cette grande puissance soit attribuée à Dieu et non à nous. » Je crois que là où nous faisons vraiment l'erreur grossière, c'est que nous confondons entre le diamant, la perle, c'est-à-dire ce qui a la véritable valeur, avec l'écrin. Si je vais dans une bijouterie, la plus grande bijouterie de Saint-Nazaire, je ne sais pas où aller, mais peu importe, et que je dis, voilà, je voudrais, s'il vous plaît, pour offrir à ma femme, elle n'est pas là, j'en profite, pour Noël, il faut que j'y pense, je voudrais lui offrir, alors il m'attend, il dit, mais quoi ? Donnez-moi la boîte seulement. Elle ne va pas être contente. Eh oui. Et c'est là, justement, on ne regarde pas à l'intérieur, on ne regarde pas ce qui a de la valeur. On ne veut que la boîte. Et Jésus nous dit, Paul nous rappelle que quelque part, la vraie valeur, elle n'est pas à l'extérieur, elle est à l'intérieur. Nous sommes que des vases de terre, des vases d'argile. Nous ne sommes rien devant le Seigneur. Que pouvons-nous prétendre ? Trésor dans des vases de terre, afin que cette grande puissance ne soit pas attribuée à nous, mais à Dieu. Et je termine sur le rocher de Golgotha. Nous en avons tous le souvenir, et si nous voulons nous le rappeler, il suffit de lire la conclusion des quatre évangiles. Sur le rocher de Golgotha, ce n'est pas la perle de grand prix, là, c'est la perle du salut. Et qui a donné la vie au monde, qui a donné la vie aux hommes, qui nous donne d'être là ce matin ? Imaginez-vous que nous pourrions être ailleurs ? Imaginez-vous que nous pourrions encore être dans nos illusions, que nous pourrions encore philosopher dans toutes sortes de labyrinthes ? Mais nous sommes en présence du Seigneur Jésus. Il nous a sauvés, il a pardonné nos péchés. Et il a fait de chacun d'entre nous, en effet, des pierres précieuses, des pierres de grand prix, comme nous dit l'apôtre Pierre, dans son épître, des pierres vivantes, un sacerdoce royal, et les perles y sont chez les rois. Et moi je dis que les perles, eh bien elles sont dans les palais du royaume des cieux, et du royaume de Dieu. Donc la perle du salut, que l'on trouve par la foi. Et je finis à travers un dernier texte, parce que je crois qu'il est le résumé de tout ce que nous avons dit. C'est Paul qui dit ceci, « Si vous connaissez Jésus-Christ, savoir Christ, mystère dans lequel sont cachés tous les trésors de la sagesse. » Mes frères et sœurs, réconfortez-vous. Prenez des forces avec la parole de Dieu. Nourrissez-vous de cette présence et de cette communion avec le Saint-Esprit, et vous aurez à la fois la connaissance de ce salut, vous aurez, eh bien, en quelque sorte, les trésors de la sagesse, et si vous avez ça, vous avez la perle de grand prix, vous êtes les hommes et les femmes les plus riches du monde. Que Dieu nous bénisse ce matin. Amen. Seigneur, nous voulons te rendre grâce et te remercier parce qu'il y a des trésors. Ils sont innombrables autour de nous, mais des trésors, Seigneur, qui se ternissent, des trésors que l'on vole, des trésors que l'on dérobe, des trésors où la rouille vient corrompre profondément. Mais Seigneur, si dans le champ de la vie, je suis entré par ta grâce, et que là, en fouillant, en découvrant, en cherchant, eh bien, tu as mis devant mes yeux, devant mon cœur, la perle de grand prix, qui s'est révélée être beaucoup plus qu'une perle de grand prix, mais la perle de mon salut. Alors Seigneur, c'est vrai que je peux tout vendre. Je peux tout laisser, Seigneur, pour avoir ce qu'il y a de plus précieux. Je te demande de visiter mes frères et mes sœurs, de leur faire du bien, de les bénir, de les nourrir de ta parole, de les encourager et de leur donner, Seigneur, dans un monde de surabondance, dans un monde de surenchère, dans un monde de surconsommation, de savoir qu'au fond de leur vie, le plus important, c'est d'avoir Jésus au fond de son cœur, la perle de grand prix. Merci mon Dieu. Merci Jésus. Amen. Amen.